Bonsoir Daniel, Serge de Clermont-Ferrand. Bon, ben, je viens d'apprendre que je vais boycotter France Inter à la rentrée. Bon, ben, s'il faut le faire, faut le faire. Le seul truc qui m'ennuie dans l'histoire, c'est que tous mes postes de radio sont bloqués sur France Inter depuis des années. Donc, pour déprogrammer ça, il va falloir que j'utilise le marteau et le burin. Ben, tant pis, on le fera. Par contre, j'aimerais bien connaître le nom du type qui décide les programmations, histoire de savoir à l'avance le nom du gars qui va peut-être arriver à faire la première grève des auditeurs France Inter. Parce que bon, là, c'est balèze. Autre chose, s'il a de l'humour, ce gars-là, ce serait bien, par exemple, qu'il remplace son émission à 17h par une émission de Jean-Marc Sylvestre, histoire de voir le bruit que ça peut faire, 500 000 Français qui explosent leur poste de radio en même temps. Bon, ben, bon courage, et puis j'espère que tu seras quand même là à 17h à la rentrée. Au revoir.
Salut Daniel, ici Anouk de Haute-Savoie, donc j'ai 13 ans et j'écoute souvent ton émission en rentrant du collège à 17h. Je regretterais sincèrement de ne plus pouvoir l'écouter si elle était déplacée à 15h. Alors on apprend plein de choses dans ton émission et je te remercie beaucoup.
Bonjour, ici Michel d'Antibes, j'ai 77 ans. Je suis une vieille dame et une vieille auditrice de Daniel Mermet. Je suis scandalisée qu'on cherche à supprimer cette émission. Le service public est un service pluraliste. Toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer. Il y a suffisamment de journalistes et éditorialistes de droite pour qu'on laisse au moins s'exprimer une émission de gauche, voire d'extrême gauche. Chacun est libre de choisir et si Monsieur Mermet ne plaît pas, les gens n'ont qu'à pas l'écouter. Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. J'appartiens à une vieille famille de militants socialistes et communistes et je suis outrée de ce qu'on cherche à faire là. C'est une mauvaise action. Par ailleurs, je me délecte à écouter l'émission sur BHL. J'ai lu récemment un roman d'un journaliste américain, Bill Bryson, un journaliste qui a travaillé longtemps en Europe et qui est rentré dans son pays pour sa retraite. Il a écrit un bouquin très rigolo qui s'appelle justement « American Rigolo ». Je me demande si ce titre n'a pas inspiré celui de BHL « American Vertigo ». Ce serait un copieur qui serait une de plus à son actif. Merci à tous les amis et j'espère qu'on va pouvoir signer une pétition. Je signale que je suis malvoyante. Je ne peux ni écrire, ni lire, ni avoir Internet. Je ne peux que m'exprimer verbalement. Comment manifester notre opinion vis-à-vis de Mermet et comment le soutenir? Merci de me répondre. Au revoir et à bientôt.
Cher Daniel, à propos de la répression qui menace ton émission, je me suis fait une réflexion en forme de syllogisme. Monsieur Cluzel est un énarque. Or, les énarques sont réputés intelligents, donc Monsieur Cluzel est intelligent, ou devrait l'être. Mais peut-être que, tout en étant supposé intelligent, ignore-t-il que pour être intelligent en acte, et pas seulement en puissance, pour parler comme Aristote, il faut, comme disait Nietzsche, savoir nuire à la sottise. Savoir nuire, disait Nietzsche. Et en cela, ton émission est une redoutable arme contre la sottise. Et toi, tu es un abominable terroriste acharné à la perte de la sottise. Mais pour s'en persuader, il n'y a qu'à écouter les hurlements scandalisés de ceux qui voudraient qu'on supprime ton émission sous prétexte que leurs contributions fiscales servent à la payer. Ils préfèrent bien sûr financer la brillante intelligence d'Ardisson ou de Fogiel. Alors M. Cluzel ne sait pas nuire à la sottise. Ou bien, il ne veut pas nuire à la sottise, ce qui est une autre affaire. Et peut-être qu'on apprend ça aussi à l'ENA, à ne pas nuire à la sottise. On fabrique aussi des tartuffes intelligents. Allez, bon courage, Daniel. Continue et mort à la sottise. Jean-Paul, de Paris.
Ben moi, je ne ferai pas partie des déçus du changement d'heure de là-bas si j'y suis. Un auditeur sur le répondeur disait « On vous déteste, mais on vous aime ». C'est vrai, mais c'est parce que Daniel Mermet a deux visages. Celui du grand reporter fantastique, excellent, du niveau de l'émission Interception qui, pour moi, est une référence. Et l'autre visage, celui du grand démago, caricatural, populiste, qui enferme les auditeurs dans un schéma de pensée en manipulant l'information, en la tronquant pour l'orienter. Un autre auditeur disait qu'il trouvait de l'esprit critique dans vos émissions. C'est l'inverse de l'esprit critique que de placer des gens dans des cases. Les bons, c'est José Bové, Olivier Besancenot, la CGT, le service public. Les mauvais, ce sont les politiques en place, du PS ou de l'UMP, la CFDT et les entreprises privées. C'est simpliste, nuisible et même néfaste à la réflexion individuelle. En vous écoutant trop souvent, on n'a pas d'autre choix que de se placer dans un cas ou dans un autre, jour après jour, sans se faire sa propre réflexion sur l'actualité. C'est le contraire de l'ouverture d'esprit que vous prétendez défendre. Pour me dévoiler un peu, je suis tendance gauche écolo, anti-José Bové, militant CFDT d'entreprise publique et pas hostile aux entreprises privées. Le boulanger de mon village, c'est une entreprise privée. Le plombier, c'est pareil. Le maçon, c'est pareil. Et ça me dérange pas. Vous voyez, c'est pas si simple que ça, le public, le privé. Alors cessez donc de vouloir orienter notre réflexion par la caricature. Restez plutôt sur votre cœur de métier, là où vous êtes resté si bon. Continuez donc à faire des reportages, mais s'il vous plaît, un peu plus de neutralité et d'objectivité, même si ça doit plomber votre ego. Salut, et à 15h.
Merci pour vos émissions, qui dérangent, qui nous font nous questionner, qui nous font réfléchir. Voilà, qui nous font réfléchir. Non, Mouton Bélan, interdiction de réfléchir, interdiction d'avoir, et encore moins d'émettre des opinions dans notre démocratie lisse. Toute lisse, aucune aspérité, aucune tête ne doit dépasser. Laissez-vous endormir, laissez-vous manipuler, travailler, consommer et mourir. Et n'oubliez pas de concevoir de nouveaux petits consommateurs avant de quitter cette terre. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, quittez cette planète le plus tôt possible, après la date fatidique de votre retraite. Messieurs de là-bas, si j'y suis, vous êtes des agitateurs de neurones, des pourfendeurs de pensées uniques, des démonteurs d'idées toutes faites, des secoueurs de tête, des dérangeurs d'intelligence. Enfin, des dangereux semeurs de questions dans un milieu où ne poussent que des affirmations pré-ingurgitables, des réponses pré-acceptables. Ah, est-ce que monsieur le directeur de Radio France aurait, si vous lui permettez bien sûr, l'amabilité de bien vouloir nous faire entendre tout le bien fondé de sa décision de changer l'horaire de cette émission géniale et modeste, en toute modestie? Est-ce que monsieur le directeur de Radio France aurait l'honnêteté de nous faire entendre tous les arguments de sa géniale décision? Nous ne manquerions pas alors de faire bouger nos neurones et nous ferions le maximum afin d'analyser sa pensée et la venue de cette pensée. Ou alors Radio France a trop d'auditeurs et ne sait plus où les mettre. Messieurs de Radio France, vos émissions sont trop bonnes. Voilà, elles sont trop bonnes, vos émissions. Eh bien, tant mieux pour nous. Continuez. Merci et bon courage à tous. C'est Dominique Bolan de Dijon.
C'est Christine, j'ai 35 ans et je suis conseillère d'éducation à Toulon. Voilà, alors moi j'appelle pour réagir aux propos hallucinants laissés par certains auditeurs hier soir sur le répondeur. Alors je ne m'attarde pas sur leur hargne et leur agressivité qui se passe de commentaires. Par contre, je vais rester quelques secondes sur leur immense connerie. Immense et abyssale connerie en effet, puisque ces imbéciles ne se rendent même pas compte que s'ils peuvent vomir leur bile sur ton émission, c'est précisément parce qu'elle existe et que cette possibilité disparaîtra en même temps que là-bas si j'y suis. Il faut vraiment être con pour souhaiter avec tant de haine la suppression de ton émission, d'autant que rien ni personne ne les oblige à écouter. Là-bas si j'y suis est dans le paysage audiovisuel français l'ultime programme public qui permet au peuple de s'exprimer, et le supprimer malgré son succès est une atteinte sévère à la liberté d'expression. En même temps, c'était couru d'avance, tu fais évidemment un peu tâche dans ce monde lisse et pastel qu'on voudrait nous imposer à tous. Quand je dis on, je parle de ceux qui ont le pouvoir, ou plus précisément ceux qui ont le pognon, ce qui finalement ne fait pas beaucoup de monde. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est bien plus nombreux qu'eux et qu'on leur casse la gueule? J'ai évidemment signé la pétition, mais il faudrait que les people s'en mêlent un peu. À quoi sert la notoriété si l'on n'utilise pas pour rendre le monde meilleur? Voilà Daniel, j'ai fini, je t'embrasse et surtout ne lâche rien.
Mais de quoi parlent-ils ces gens sur ce répondeur? De quoi parlent-ils? Eh bien, à la surprise générale, venant d'onde cette houe, une pétition circule sur le net, sur le site www.la-bas.org, qui a été mise en ligne vendredi soir et qui vient de dépasser la barre des 60 000 signataires. Où va là-bas, se demande-t-on, et où va France Inter, se demande-t-on, et qui est ce ton? Eh bien, ce sont les auditeurs de là-bas, si j'y suis, et de France Inter, qui s'interrogent et qui se questionnent sur, et qui posent beaucoup, beaucoup de questions, et qui amènent des éléments de réponse et de réflexion, en tout cas, sur la radio qu'ils aiment et qu'ils écoutent et à laquelle ils sont profondément attachés. En voilà quelques échos. Pour savoir de quoi il retourne concernant là-bas, si j'y suis, je répète l'adresse de cette pétition, www.labas.org, la-bas.org, vous saurez tout et peut-être signerez-vous cette pétition. Nous partons aujourd'hui pour Marseille. Oui, pour Marseille. Et pourquoi Marseille? Eh bien parce qu'à Marseille, il y a une anomalie, mais qui, comme là-bas, si j'y suis, va disparaître.
Moi, les projets pour Marseille, je vais te dire les projets pour Marseille. Déjà, on dynamite le TGV.
Mesdames, déjà, on commence par ça. Notre TGV va desservir la gare de Marseille-Saint-Charles.
Comme ça, terminé, les Lyonnais, les Parisiens qui viennent là se dorer au soleil de Marseille. Fini, terminé. À Dodane, d'accord, vous venez à Dodane, vous êtes les bienvenus. Hein? Mais un TGV, non.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bas si j'y suis, avec François Ruffin, une anomalie marseillaise.
Flight number 2, arriving from New York.
Vous faites une exploitation de trac dans la rue au camion de la poste, c'est
ouais.
Quoi?
Ouais, je renseigne.
Eh oui, je me renseigne parce que de toute façon, s'il y a une manifestation, c'est qu'il y a un problème. Voilà.
Bonjour. Bonjour.
Là. On se trouve rue du Chevalier Rose et vous distribuez des tracts dans la rue aux bagnoles qui passent.
Et qui ne s'arrêtent pas.
C'est quoi le tract que vous distribuez là?
C'est un tract pour expliquer ce qui s'est passé et les méthodes de Marseille République. En fait, le comité chômeur a réquisitionné un logement pour Madame Antfani qui se trouve actuellement dans un appartement bourré de peinture au plomb et sa gamine est atteinte de saturnisme. Depuis 5 ans, elle a fait des centaines de demandes de HLM, on a alerté la DAS, on a alerté la préfecture, bref, on a fait tout ce qui était possible. Et au bout d'un moment, voilà, on est passé à l'action, ça suffit, quoi. Fatima ? Hop là, bonjour.
Il y a la Marseille République qui sont venus avec des policiers. Ils ont cogné la porte, voulaient ouvrir. Le mardi soir, je me suis rendue avec les enfants pour dormir. On a trouvé que les portes étaient fermées. Et il y a des gens qui sont venus avec des masques, ils ont changé la serrure.
Et il était bien l'appartement là-haut?
Oui, il était bien.
Il y avait de l'eau, de la moquette comme ça dans les chambres. Suffisait d'un bon coup de ménage, c'est tout, quoi. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'ils veulent détruire, qu'est-ce qu'ils veulent réhabiliter dans ces appartements-là, quoi. Ils sont un coup de peinture et c'est à peine.
Il y a des années, je ne sais plus combien, nous avons présenté une série de reportages à Marseille qui s'appelait « La planète Marseille ». Et pourquoi on avait appelé ça ainsi? Parce que Marseille était une ville encore étrange de ses étrangers même, et populaire, Marseille populaire. Le charme de Marseille, l'attraction de Marseille, l'étonnement qu'on éprouve en voyageant dans les rues et les ruelles de Marseille, eh bien c'est évidemment le peuple, les peuples, qui depuis longtemps, depuis combien de siècles, viennent là, travaillent, se frottent, parfois de façon assez rude, échangent, vivent, et ont fait cette ville. Et quand je dis les peuples, c'est aussi des milieux sociaux différents. Or, ce qui était vraiment exceptionnel, eh bien, va disparaître. Ce qui était exceptionnel, c'est que le cœur de Marseille, le centre de Marseille, était populaire. Comme jadis, les villes françaises, je pense évidemment tout de suite à Paris. Le centre de Paris, les Halles de Paris, était autrefois un quartier populaire. Et il y a eu tous ces processus que nous connaissons, auxquels nous avons assisté désespérément, ces villes se sont vidées de leur vie, des villes vides de vie. Mais c'était pas le cas de Marseille. Eh ben, ça va, c'était une anomalie. En somme, Marseille, eh bien, aujourd'hui, il y a une mise au pas très radicale, vraiment très concertée, et qui nous a intéressés avec François Ruffin, nous a intéressés de vous montrer cette mécanique. Bien sûr que tous les Marseillais connaissent cette histoire. Pour eux, c'est un drame terrible, mais ô combien ordinaire. La façon dont on a vidé les villes dans les années 60, 70 et 80 s'est fait peu à peu dans un esprit que nous connaissons. Là, c'est vraiment le libéralisme dans toute sa violence, dans toute sa sauvagerie, dans toute sa force aussi. Vous allez voir que le reportage de François Ruffin fait penser un peu à ce qu'on vous avait présenté avec Guy Van Til sur Dubaï, la façon de mettre au pas qui est aujourd'hui celle du néolibéralisme. C'est jusqu'à 18h, c'est encore là-bas si j'y suis, une anomalie marseillaise.
Du parisianisme, ma ville est la proie des gros requins du tourisme. On quitte la capitale, grise et polluée, pour venir s'installer sur la côte saturée. Marseille, méfie-toi, tu changes de visage, tu te fais plus docile et tu te laisses mettre en cage. Ils sont beaucoup à t'avoir connu plus fier. Marseille, tu te laisses trop faire, tu te détruis et te reconstruis en plus grand. Tu élargis ta vision, à quel détriment tout se lutte dans tes places nouvelles. Tu ne te trouvais peut-être pas assez belle. Marseille, laisse tomber, toi tu as le soleil. Tu ne ressembleras jamais au pays des gratte-ciels. Tu devrais te contenter de la chaleur de l'été. S'il te plaît, reste comme tu es.
Marseille, c'est une ville de fou. Oh Marseille, jusqu'au bout. Marseille, de la cage à mon kilo. Marseille, c'est une ville de fou. Oh Marseille, jusqu'au bout. Marseille, de la cage à mon kilo.
Notre ville, une marina, un port de plaisance, jet set, tout le tralala, tellement à la mode qu'elle s'ouvre à tout le monde. D'ailleurs, on y tourne moins 3 films par seconde. Marseille, tu fais le frais de leur arrogance, tu te voulais rebelle, mais c'est eux qui mènent à la danse, c'est eux qui tiennent les rênes et qui les tiendront jusqu'à ce que dans leurs mains tu pètes les plombs.
Marseille, c'est une ville de fou. Oh Marseille, jusqu'au bout. Marseille, de la cage à mon kilo.
Finalement, là, il y a combien de logements vides ici ?
En tout, à Marseille, il y en a 33 000 de logements vides à Marseille. Il y a 22 000 demandes de logements. Regarde, c'est noté là, c'est sur l'étude, c'est des chiffres EDF, d'après l'enquête.
EDF, ils disent quoi ?
Selon les données EDF, un logement marseillais sur 10 est vide. Ce chiffre global masque des disparités. La vacance la plus forte est observée dans le... Ouais,
bref. C'est bon. Ouais,
voilà. Mais après, voilà, le problème, c'est que Marseille, ils ont vendu la ville à des multinationales, à des gens... voilà, ils ont vendu la ville. La ville, elle appartient plus aux habitants.
Parce que là, cet immeuble, il appartient à qui ?
Cet immeuble, il appartient à Marseille République.
Et Marseille République, ça appartient à qui ?
À des fonds de pension américains, je crois, à l'origine, c'est ça. Ces gens-là, ils font pas du social, ils veulent se faire de l'argent et ils estiment qu'avec Madame Anfani, ils vont pas s'en faire assez, ni avec Monsieur Bangoura. C'est pas des clients assez. Voilà, c'est tout.
Et là, aujourd'hui, ils ont envoyé des gens pour tout casser, mais nous, on les a refusés de rentrer.
Ils sont où ces gens qui
voulaient? Ils sont partis.
Leur monsieur qui est là-bas. C'est un monsieur qui travaille pour Marseille République et qui est chargé de ce qu'on appelle dévitaliser les appartements, c'est-à-dire qu'il casse les toilettes, il casse les tuyauteries, enfin voilà, il dévitalise pour empêcher les squatteurs de rentrer dans les appartements vides. Et après, ça reste comme ça pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'ils rénovent un jour, peut-être, et qu'ils en fassent. Alors ici, dans le bâtiment, ils veulent faire des studios pour les étudiants, en fait. Ils veulent se faire du pognon, quoi.
Et donc vous, vous les avez empêchés de dévitaliser l'appartement?
Ouais. Ah ouais. Ouais.
On les a empêchés.
On trouve que c'est complètement ahurissant de vouloir détruire des appartements en bon état, alors qu'il y a des gens qui sont à la rue ou qui vivent dans des taudis à Marseille. Quoi.
Et vous le connaissez, le monsieur qui dévitalise?
Ouais, je le connais, je l'ai rencontré ce matin, je le connais pas personnellement, mais il est sympa. Il y en avait trois, et il disait aussi qu'eux, ils n'arrivent pas à se loger, qu'ils bossent et ils n'arrivent pas à trouver des appartements.
Excusez-moi. Vous êtes dévitaliseur, c'est ça? C'est quoi dévitaliseur en fait?
Pour éviter que les gens resquattent dans le même appartement. D'ailleurs, on fait déménager les gens, on déloge les gens, on les transporte, et après, il faut les dévitaliser.
Et après, vous êtes dévitalisé, ça veut dire vous enlevez.
On casse les vitres, on casse les tubes, on enlève le robinet, on enlève les toilettes, on casse les toilettes, les salles de bain, tout ce qui est salle d'eau. Voilà.
Et les logements que vous cassez, ils sont habitables ou bien?
Oui. C'est des palais qu'il y a dedans, monsieur.
Et vous, vous êtes chargé de casser des palais?
Moi, je casse les palais, vous comprenez? C'est des palais qu'il y a là. Vous voyez pas? C'est des forteresses. J'aimerais bien t'avoir habiter ici, mais...
T'aimerais bien habiter ici?
Ouais. Pour voir les appartements que c'est. Vraiment.
Et on vous charge de casser des appartements comme ça, alors?
Ben oui. Ça fait partie de mon boulot.
Vous êtes bien payé pour faire ça?
Ben, moi, je suis payé 1212 euros brut.
Le SMIC, alors? Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu dommage?
Ben oui, c'est bien sûr que ça me dégoûte. Mais bien sûr que ça me dégoûte. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Ici, nous nous trouvons dans un espace d'exposition que nous avons ouvert au début de l'année.
Alors, monsieur Foyard, vous êtes le président de Marseille République et vous êtes accoudé à une maquette.
Oui, la maquette représente l'intégralité de la rue. C'est la plus grande avenue haussmannienne de la planète à l'architecture homogène. Plus d'un kilomètre trois, donc c'est très très long, entièrement rectiligne. On a racheté la foncière qui possédait ces 124 immeubles, 100 000 mètres carrés de logements et 30 000 mètres carrés de commerce de pied d'immeuble. Ces 30 000 mètres carrés de commerce de pied d'immeuble en font aussi le plus gros portefeuille de commerce de pied d'immeuble dans la même rue et détenu par un propriétaire unique. C'est-à-dire que le centre-ville est en train d'être restructuré, reconquis. Vous voyez les travaux dans la rue, ça va être magnifique, avec des pavés, des dallages en granit au sol, les trottoirs triplés, des arbres qui n'existaient pas, le tramway, la construction d'un parking de 800 places. Bon, l'opéra, le deuxième opéra de France, plus toutes les... un multiplex au bout du quai de la Joliette. L'exploitant sera Luc Besson, qui investit à Marseille aussi.
Donc c'est toutes les infrastructures, le cinéma, l'opéra, des choses qui sont destinées aussi à attirer des cadres, des professions libérales.
Ça va être la croisette.
La croisette, c'est-à-dire la croisette comme à Cannes.
Voilà, exactement. Si vous préférez la promenade des Anglais, voilà. Mais comme à Cannes, exactement. C'est ça le projet, vous l'avez sur l'image là-bas d'ailleurs. Le quartier est requalifié et retrouve sa vocation d'origine. La vocation d'origine, quand les frères Pereire ont tracé la rue de la République, c'était d'être une avenue pour la moyenne bourgeoisie. C'est exactement dans cet esprit que la réhabilitation de la rue de la République est faite. Quand les frères Pereire ont tracé la rue, ils ont été boudés par la moyenne bourgeoisie marseillaise qui n'a pas voulu venir. Ils ont fait faillite avec cette affaire-là, le crédit immobilier des frères Pereire.
Donc vous venez boucler la boucle ouverte par les frères Pereire au 19e siècle et en fin de compte essayer de mettre fin à une anomalie marseillaise.
Ouais, tout à fait.
La fin d'une anomalie marseillaise. On a besoin de gens qui créent de la richesse. Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Le cœur de la ville mérite autre chose, dit Claude Valette, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme au journal Le Figaro, le 18 novembre 2003. Je crois que Marseille est incurable à jamais, à moins d'une déportation massive de tous les habitants, d'une transfusion d'hommes du Nord. Louis Fréron, proconsul de la Convention, 1794. Le quartier de la Porte d'Aix est un véritable quartier arabe. Si un jour j'ai le moyen de faire quelque chose à la mairie de Marseille, je le ferai, déclare au Matin, le 9 novembre 1985, Jean-Claude Gaudin. Et, tiens, Pierre Laval, président du Conseil, janvier 1943, on va épurer Marseille qui en a bien besoin. Voilà quelques florilèges de déclarations qu'on peut boucler en citant Gérard Chenoz. Pour que les gens soient mélangés, il faut que certains partent, dit ce conseiller municipal UDF de Marseille dans l'Humanité du 21 avril 2000. Voilà l'esprit général, vous avez compris ce qui se passe. La fin d'une anomalie, une ville qui avait encore le peuple en son cœur même.
Toi, tu portes un t-shirt où il y a marqué sécurité dessus.
Ah, sécurité, tout simplement. J'interdis toutes les personnes que tu vois là de rentrer dans l'immeuble.
C'est la ligne qu'on ne doit pas dépasser ici à terre, là ?
Ouais. C'est vraiment dégueulasse de la part de Marseille et de tout son entourage, là, ceux qui sont au-dessus. Bon, eux, ils sont bien, hein. Tous les soirs, ils rentrent chez eux, ils se font une bonne douche, ils mangent un bon morceau. Et en attendant, la dame, là, ce soir, elle ne sait pas où c'est qu'elle va dormir avec ses enfants.
Ils prennent une bonne douche, c'est les décideurs politiques et puis les responsables de la société.
Bien sûr. Tu crois quoi? Ils vont rentrer chez eux, jettent ses chaussures, va se frapper une bonne douche, va manger un bon morceau avec sa femme, il va se caler avec ses enfants, il va rigoler. Et la dame, ils l'ont oublié.
La dame, c'est la dame qui habitait ici,
ouais, voilà,
et qui a été expulsée.
Ouais. Voilà, qui a été expulsée.
Donc toi, tu assures la sécurité d'ici, tu travailles pour... Et pourtant, tu te sens plus proche de la personne qui a été expulsée.
Ah ouais, non, mais c'est sûr et certain. Tu sais, je te dire, de nos jours, dans ce pays, dans ce bas monde, là, c'est malheureux à dire, mais tu es obligé de tout faire pour pouvoir t'en sortir.
Tu es obligé de tout faire, c'est-à-dire que tu es même obligé de te mettre au service de ceux que tu n'aimes pas, quoi.
Ouais, voilà, une fois, ils ont expulsé une femme du côté de la Belle de Mai. Et ouais, je veux dire, on s'est mêlés, on s'est imposés. Mais on leur a dit, c'est pas bien, c'est pour faire et tout, faut comprendre et tout, patin couffin. Bon, on a essayé, ça a chauffé, jusqu'au moment où il y a un camion de CRS qui est arrivé. Tu restes blanc, tu te tais, tu t'en vas. Moi hier, écoute bien, vu la faute qu'ils font déjà. Moi hier, j'arrive, ils me disent, il n'y a personne qui occupe l'immeuble. Qu'est-ce que je fais? Moi, je viens, j'ai un rot et j'ai un dog du Brésil. Et c'est des chiens, je veux dire, c'est des gros molosses, c'est des chiens méchants. J'arrive, je vois la porte ouverte, que je fais? Je lâche mes chiens. Moi, on m'a dit qu'il n'y avait personne dans l'immeuble qui habitait. Et d'un coup, je vois une personne qui m'appelle par la fenêtre, une Coréenne. Que j'ai fait? J'ai fait rentrer les chiens. Elle me dit, non, mais il y a du monde qui habite ici. Ah, je ne savais pas. Moi, on m'a dit que les immeubles, ils étaient vides. Déjà, vous avez bien fait de me le dire.
Ah ouais, c'est là,
je crois que nous serons retrouvés en prison aujourd'hui.
Et toi, t'as galéré pour trouver un logement à Marseille ou...
Moi, franchement, ouais, j'ai vraiment galéré. Et jusqu'à présent, je me fais casser les reins par le loyer. Voilà. Tu peux demander à Charles, là. J'habite dans un quartier vraiment de barbares. Et si tu vois les loyers que je paye, tu tombes par terre. Je cherche à partir d'où je suis. Je comprends pas. Il y en a, mais ils disent qu'il n'y a pas. C'est comme là, sur le papier là, qui nous a donné Charles, là, prospectus. C'est quand même hallucinant quand tu vois... Oh. Avec 33 000 logements inoccupés. C'est donc, il y en a des appartements vides. Je dis rien que là, la moitié des immeubles, ils sont vides.
Voilà.
Ils sont arrivés deux ou trois entrepreneurs d'Amérique là-bas. Ils ont acheté les immeubles pour misère. Et voilà, la République, la ville de Marseille, les a suivis pour je ne sais pas combien d'argent. Le riche, il a le droit de vivre et le pauvre, il n'a pas le droit de vivre. Et si tu regardes bien, Dieu, il nous a tous créés pareil. Le riche, il saigne comme moi. Il a le même sang rouge comme moi dans le corps. Hein. Demain, on lui coupe un bras au riche. Il va saigner rouge. Moi, on me coupe le bras, je vais saigner rouge. Je ne vais pas saigner bleu. Tu regardes bien les loyers, tout ça, t'as pas tout fait. Ils s'attaquent aux petits. Il y a des gens comme nous qui savent qu'au-delà, on ne pourra pas. Excuse-moi.
Vas-y.
Allô? Hein?
Au revoir.
Allez, arrêtez de vous parler.
un des squatteurs.
Non, non, mais ça, c'est pas vraiment un squat. C'était, vous le savez, c'était la petite qui est atteinte par 218 mg de plomb et que le préfet, les autorités ne font absolument rien. Ah, donc, d'accord. C'est une question de vie ou de mort pour cet enfant.
Ah, non, non, alors,
c'est bon, une action humanitaire qui a été faite dans cette
maison. Il faut qu'on lui donne un appartement.
Voilà, c'est ça.
Il y en a plein de maisons, regardez.
Vide, il y en a énormément.
Là, vous montrez toute la rue.
Non, regardez, alloué, alloué. C'est tout vide, tout ça.
Mais c'est simple, il y a 60% de logements vides depuis 5 à 6 ans. Et ils les ont laissés vides, le nouveau propriétaire, parce qu'il compte ici virer tout le monde. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont écrit, ils nous l'ont dit. Vous partirez tous, personne ne restera là. On va faire une cité étudiante.
Donc là, vous étiez en train, vous êtes avec votre caniche.
Voilà.
Vous ne lui tenez pas la laisse.
Si, là, je l'ai lâché juste parce que vous voyez, regardez, il est assis, il est très bien dressé, mon caniche, il ne bougera pas. Donc je promenais mon caniche, tout simplement. Hein. J'habite la porte à côté. Hein.
Et puis vous êtes tombé sur cette manifestation.
Voilà, sur cette manifestation, juste à côté de chez moi, où il y a donc ce squat qui a été organisé. Donc on voit là une dame, d'ailleurs, qui passe, là, qui a de gros problèmes, elle aussi, ils veulent la mettre dehors.
On n'ose pas trop parler parce que vous savez, avec tout ce qui se passe dans la rue de la République, voilà.
Ils ont vu une photo sur sa télévision, ils lui ont dit « qui c'est ça ?» Elle a dit « c'est mon fils ». Eh bien alors, si vous voulez, on vous facilite le déménagement, vous irez rejoindre votre fils, c'est pas bien maintenant que vous êtes à la retraite. Et elle a dit « oui, mais moi j'irai bien le rejoindre, vous savez, mais mon fils il est mort depuis 10 ans ». Eh bien, sans marquer de coup d'arrêt, sans avoir la moindre émotion, elle a dit « et ça, qui est-ce ? C'est ma sœur. Ah, et où elle est votre sœur ? Elle est à Lille, parce que je suis originaire du Nord. Et vous ne voudriez pas aller finir vos jours à Lille ? Vous avez vécu 40 ans à Marseille, 50 ans à Marseille. Voilà, voilà leur technique, voilà leur façon. Plus personne ne doit rester dans les immeubles, il faut qu'ils les vident. » Moi, je suis arrivé, j'avais 31 ans, c'était en 81. Donc, vous voyez, ça fait maintenant 25 ans.
Et c'était comment le quartier quand vous êtes arrivé?
Alors, c'était un quartier familial encore. Il y avait, tous les appartements étaient encore occupés. Hein. Donc, très convivial. Les gens descendaient dans la rue, discutaient. Même, ils mettaient des chaises l'été. Vous savez, comme ça se fait dans les pays méditerranéens.
Et quand est-ce que ça s'est transformé, alors?
Dans les années... À partir de 95, on a vu le changement. À partir de là, ils n'ont plus reloué les appartements quand les gens sont décédés ou les gens sont partis parce qu'ils avaient ce projet-là. Venez, on va par là, parce que je vais vous montrer la rue Fioca. À l'été 2003, on a reçu un courrier qui nous disait « Voilà, un nouveau propriétaire a acheté votre immeuble, il veut vous rencontrer. » Moi, naïf, j'ai dit « Bon, ben écoute, j'ai dit à ma famille, il vaut mieux qu'ils viennent ici, comme ça ils verront notre appartement. Ils verront que le nôtre, il n'y a pas lieu de faire une réhabilitation, il est déjà réhabilité. J'ai créé la salle de bain, j'ai mis l'électricité aux normes, j'ai enlevé la cuisinière à charbon qu'il y avait avec des briques. Vous savez, ces cuisinières que vous trouvez à la campagne, où vous mettez le bois et vous tirez tous les soirs le... »
C'était comme ça quand vous êtes arrivé?
C'était comme ça quand je suis arrivé, avec trois ampoules et une prise dans la maison. Je dis bien trois ampoules et une prise. Pas de baignoire, juste un lavabo qui pendait et qui ne tenait plus. Que l'eau froide, pas d'eau chaude. Il y avait le cabinet, ça c'est vrai. Le cabinet avait été installé, WC. Voilà, donc un taudis que personne ne voulait. Donc je l'ai pris, je l'ai entièrement réhabilité. Moi, il est nickel, mon appartement. Et donc je me suis dit, ben, quand ils verront mon appartement, ils diront, bon, ben, celui-là c'est bon, on n'a pas besoin de le réhabiliter. Ah, on était naïfs. Parce que quand la personne elle est venue, elle m'a dit « Vous allez partir, c'est à nous, nous avons acheté, on ne vous demandera pas votre avis, et tout ce que vous avez là, c'est de la merde. » Je vous dis bien comme on nous l'a dit. Hein. Nous, ce que nous allons faire, c'est totalement autre chose. Nous allons faire des appartements standing, donc vous n'avez plus votre place ici.
Ça, c'est le médiateur qui
dit. C'est le médiateur.
C'est une drôle de médiation.
Ben oui, c'était ça, leur médiation. Leur médiation, elle commence tout simplement par une condition sine qua non. C'est « Vous partez, et ensuite, nous pouvons discuter. »
Au départ, vous étiez contre cette opération de rénovation ?
Ah non, pas du tout. Nous, au contraire, on l'a demandé depuis longtemps. Et on était naïfs, on ne savait pas. Et quand elle est venue, bien sûr, et qu'elle nous a dit « Vous allez partir », tout le monde partira. Même mieux que ça, elle a commencé le premier jour à nous dire « Vous savez, nous allons avoir des permis de construire lourds, délivrés par la mairie, et vous ne pourrez rien faire pour rester. Vous partirez, que vous le vouliez ou non. » Alors là, je lui ai dit, écoutez, regardez-moi bien, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, je suis un citoyen normal, hein, un citoyen qui s'occupe de rien, qui ne fait pas de politique, qui n'a pas d'association, rien, mais vous avez trouvé un adversaire. Regardez-moi bien, je vais devenir votre adversaire numéro un. Moi, Monsieur Quadra, je vais monter des associations immédiatement, je vais me mettre au travail, et on va vous résister, on va vous montrer que ici, vous avez affaire à des citoyens responsables qui vont se défendre, et pas des moutons qui vont baisser la tête et qui vont partir. Je lui ai dit, quand je l'ai raccompagné à l'ascenseur, Elle m'a dit, c'est ce qu'on verra. Et bien, c'est ce qu'elle a vu maintenant, puisqu'elle se rend compte que vraiment, je suis leur ennemi numéro un. Voilà, alors là, maintenant, on passe la place Sadi Carnot et on arrive donc sur le patrimoine de Marseille République qui commence à partir de là, plus cet immeuble que vous venez de voir là. Hein. À partir de là, jusqu'au bout, c'est pratiquement tout à Marseille République.
De là jusqu'au bout.
Ah ouais, pratiquement jusqu'au bout.
Vous voulez voir les appartements témoins, ça vous amuse ?
Oui, bien sûr.
Oui, allô ? Bon, 8 heures, ok.
Alors, on prend l'ascenseur.
Ah,
même l'ascenseur, il y a...
Oui.
Il est carrelé ?
Oui, absolument, oui, bon. On a pris comme modèle, avec le fabricant d'ascenseurs Thyssen, on a pris comme modèle les ascenseurs des beaux hôtels. Voilà, et non pas l'ascenseur de base. Et alors, ce que nous avons fait, qui est une démarche qui n'est pas très courante, c'est que on décline les finitions choisies par l'acquéreur selon trois descriptifs différents, que nous avons baptisé Haussmann, design et élégance. Vous allez voir, ce sont trois styles de finition.
Donc ici, c'est prestige, c'est ça? Ou c'est Haussmann ici?
Oui, c'est la gamme Haussmann. Voilà, alors bon...
Donc là, la table est dressée hein, pour un repas chandelle.
Voilà, les plafonds surbaissés dans les couloirs parce qu'il y a la clim. D'accord. Et c'est une vraie clim, hein, c'est pas le rafraîchissement. C'est-à-dire vous mettez 18 dans votre chambre, vous avez 18. Vous mettez 19 dans le salon, il y a 19. Et ici...
Donc on va monter à l'étage dans le duplex.
Voilà. Suite des parents, vous voyez, on livre avec les placards complètement équipés, les tringles à rideaux, les tiroirs.
C'est avec le lit à baldaquin, là.
Voilà, salle de bain. Donc en gamme Haussmann, vous voyez, des baignoires en fonte comme autrefois. Ça, c'est la gamme Haussmann.
Des villes, on le disait, comme Lyon, Paris, voire Londres, ont connu un processus que les Anglais appellent la gentrification. Finalement, c'est un peu ce retard-là que Marseille est en train de combler, enfin, ce processus de gentrification.
On va plutôt vers la création d'une mixité sociale. Pour le moment, il n'y avait pas de mixité sociale au centre-ville. Il y avait essentiellement des gens qui étaient pauvres ou très pauvres. Donc, on a certains de nos logements, c'était vraiment Zola. Hein. C'était terrible. Dans nos acquéreurs, nous avons d'ailleurs des gens qui sont anglais, qui travaillent à Londres, et qui ont décidé d'habiter ici, de mettre leurs enfants à l'école internationale. Et on en a trois, comme ça. Bon, en un mois, c'est pas si mal. Et d'aller à Londres 3 jours par semaine ou 2 jours quand c'est nécessaire, qu'ils soient au sein de leur société sur place.
Donc des Anglais qui habitent rue de la République, qui vont habiter rue de la République.
Absolument, absolument. Oui, oui.
Donc, plus artiste ici, hein, la déco.
Ouais. Comment?
Ici c'est plus bobo.
Oui, oui, absolument. Bourge et bobo, voilà. On fait les deux.
Vous avez des bobos qui achètent ici aussi?
Oui, bien sûr. On n'a pas l'ambition de proposer des logements à un seul socio-style. On a des acquéreurs, on en a plusieurs, par exemple, qui travaillent au pôle multimédia de la Belle de Mai. Soit chaîne de télévision, soit on en a un qui est graphiste. Enfin, vous voyez, des gens comme ça.
Donc c'est une gamme un peu plus large pour dire d'aller du bourgeois au bobo, quoi.
Voilà, exactement. Et aux jeunes cadres dynamiques, enfin, on a de tout.
Donc finalement, entre le bobo, le cadre dynamique et le bourgeois, vous avez un peu toutes les classes, quoi.
Oui, oui, absolument, absolument. Ça va être... On aura un bon mélange d'âge et de style de vie.
D'accord, donc ça fait un peu de mixité sociale, voilà, entre les trois, quoi.
Voilà, exactement.
Elle est belle, ma mixité sociale, hein. La mixité sociale, quand il y a des pauvres et des très pauvres, eh bien on met des bourgeois et on met plusieurs genres de bourgeois et ça fait de la mixité sociale. Formidable, c'est la fin de l'anomalie marseillaise. Ça se passe aujourd'hui, c'est en train de se passer. Quelques-uns résistent, mais pas très très nombreux, même si tout le monde connaît cette histoire sinistre à Marseille. C'est un bon reportage de François Ruffin.
Vous savez, j'ai vu M. Foyard,
le président.
J'ai vu le président de Marseille République.
Oui.
Il m'a dit qu'on procédait à une reconquête du quartier. C'est une reconquête de quoi, alors?
Alors, je vous explique. La reconquête, elle est simple. Vous prenez la déclaration de Mme Servant, que Mme Servant, qui est adjointe au logement de la ville de Marseille, elle dit « Nous ne souhaitons pas voir revenir la population actuelle de la rue de la République » Et en ce sens, nous sommes suivis par les nouveaux bailleurs. Ce qui veut dire, en deux mots, que la population actuelle, elle est pauvre, elle n'est pas trop claire non plus, il faut dire les choses comme elles sont. Et on préférerait avoir des gens bien riches, bien beaux, bien blancs, et cadres ou jeunes cadres dynamiques avec des enfants. Voilà, donc c'est ça. Ils veulent faire un renouveau, la reconquête de la rue de la République sur les pauvres. Les pauvres n'ont pas leur place dans cette rue. Voilà comment ils l'interprètent.
Et en même temps, vous n'êtes pas pauvre.
Ah non, moi je ne suis pas pauvre. Moi j'ai un revenu qui frôle les 4000 euros par mois.
Vous êtes cadre ?
Presque. Je n'ai pas le titre, mais j'ai le salaire.
Dans votre immeuble, il y avait quoi ? Il y avait
quel... Alors, un employé municipal retraité, sa femme était vendeuse. Hein. Bon, ensuite, j'ai un ancien navigateur. Bonjour, ça va ?
Ça va.
Et vous ? Un ancien navigateur, ancien restaurateur. Et puis le dernier qui reste, ce sont une famille de Vietnamiennes qui sont là, hein, dans l'immeuble, qui ont des revenus avec 4 enfants, qui ont des revenus très bas, puisqu'il n'y a que lui qui travaille. Il est d'ailleurs actuellement au chômage. Hein. Voilà, vous avez tout un panel.
Donc, c'est-à-dire que quand on dit, finalement, dans le quartier de la République, il y avait en gros que des Arabes et que des pauvres.
Totalement faux. C'est un raccourci ignoble. La preuve, monsieur Appieto, la preuve, monsieur Pelinck. Ah, si elle nous ouvre.
Donc là, vous allez rentrer dans un hall d'immeuble.
Dans un hall d'immeuble. Oui, c'est Michel. Vous pouvez m'ouvrir ? Voilà, vous voyez ? Alors voilà, regardez où ils en sont. Hein. Malgré qu'il y a encore des habitants, ils détruisent complètement les appartements, tout.
La rampe, c'est plus une rampe, c'est une gaine en plastique.
Ils la protègent, voilà.
Il n'y a plus de porte aux étages. Hein.
Toutes les cloisons ont été enlevées, toutes. Sans exception, il n'y a plus que les murs maîtres. Toutes les cloisons ont été totalement enlevées. Madame Esposito, à vous manger.
Bonjour, madame.
Non, j'étais en grève.
Ah, on peut rentrer 2 minutes ?
Chez moi ?
Oui. Ouais. Ça vous embête pas ?
Non, allez-y.
D'accord. Bonjour. La famille Esposito, elle subit en permanence les pressions.
Attendez. Reprenez votre souffle.
Je reprends votre souffle.
On vient d'arriver, excusez-nous, on était en train de faire les carottes râpées.
Là, donc, il y a un immense contraste entre le hall d'escalier dans lequel on monte, où tout est détruit, il n'y a plus rien, et on rentre chez vous. C'est comme si rien n'avait changé. C'est vraiment très meublé ici.
Voilà, parce que c'est tous des meubles qu'on s'est fait avec la sueur de notre front, avec mon mari et tout. Hein. Ça fait que des fonds tiennent.
C'est bizarre parce que quand... On entend parler de la rue de la République. On vient nous dire que c'est comme s'il y avait des rats qui couraient partout.
Ici, il n'y en a jamais eu, hein, ni rats, ni cafards, rien du tout. Il n'y a pas de bêtes. Je vous fais voir.
Voilà, elle va vous montrer le reste de l'appartement. Vous allez être surpris. Et tous ces beaux tableaux, c'est vous qui peignez alors ?
Non, il y a certains que c'est mon fils, il y a celui-là moi.
Et puis il y a plein de poupées ici. Hein.
Ah, on collectionne
souvent.
C'est une collection. C'était déjà comme ça quand vous êtes arrivé ou vous avez...
Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait ? Salle de bain ? Les peintures, on a fait le...
Et alors, comment ça se fait que vous êtes les seuls à rester dans un immeuble comme ça qui est complètement détruit ?
On tient à notre bien, ça fait quand même 25 ans qu'on est là, on ne peut pas partir du jour au lendemain.
Vous avez vu la stratégie de démolition ? Raser pratiquement tout ce qui existe dans un immeuble en ne laissant qu'un appartement au milieu. Vous êtes au 3e étage, c'est à peu près le milieu de l'immeuble. Demain, il va peut-être y avoir une fente, on dira « Oh là là, ça risque de s'effondrer ». Et à ce moment-là, il sera obligé de partir parce qu'il y aura un arrêté de péril. Donc ça, c'est mettre les gens devant le fait accompli. Donc ça veut dire, vous ne voulez pas partir, votre bail va jusqu'en 2008. Eh bien nous, on va quand même faire ce qu'on a à faire et si vous êtes en péril, tant pis pour vous. Elle a eu des pressions, elle en a eu énormément. Ils sont venus la voir 10 fois, ils ont même fait venir un grand cadre de Paris. Hein, je parle devant Mme Esposito qui me contredira.
Ça vous tape sur le moral, toute cette histoire ?
Ah oui, j'ai eu une paralysie faciale. Il paraît que c'est dû
au stress.
Regardez, ouais, quand je parle, je suis obligée des fois de me tenir la lèvre.
C'est dû au stress parce qu'ils viennent souvent vous voir et tout ça ou...
Fait ça que
ces derniers temps.
Il
y a eu beaucoup plus d'accentuation ces derniers temps. Voilà. Des lettres, des convocations, des recommandés. Voilà.
Allez, on y va. Allez. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Ce qu'on a réalisé ici, c'est la présentation en situation dans un futur commerce. Voilà. Vous voyez, bon, ça c'est.
Donc ça c'est le parquet.
Ouais, ça c'est du parquet. Celui-là, c'est du chêne cendré. Celui-là, c'est du berry, du merbeau. Ça, c'est du hêtre. Quand nous avons acquis le patrimoine, bon, tout, il y avait environ 325 modules commerciaux. Ces 325 modules commerciaux vont devenir un peu plus de 100 modules qui iront de 40, 50 mètres carrés. Il y a des enseignes extrêmement bien, mais qui n'ont pas besoin de beaucoup de surface, jusqu'à la plus grande, qui va faire 3650 mètres carrés, qui va être, à mon avis, le plus haut de gamme dans sa catégorie en France.
Du grand magasin, mais haut de gamme.
Voilà, exactement. Il y a une ou deux boulangeries qui faisaient du vrai bon pain, on les garde. Il y a une boucherie qui est très très bien, on la garde, mais ça n'est pas suffisant pour une rue d'un kilomètre trois, donc on va en implanter d'autres. Et puis après, un de nos îlots, donc, qui est à l'angle du boulevard des Dames et de la rue de la République, où
ça vient exactement ici, en fait.
Oui, absolument, voilà, et où on va implanter une dizaine d'enseignes de luxe. On est en train de constituer ce club d'enseignes de luxe dont les plus prestigieuses françaises qui ont pris la décision de s'implanter là. 400 000 croisiéristes par an passent à Marseille. Mais 400 000 croisiéristes, c'est absolument considérable, ce qui fait de Marseille le premier port de croisière de la Méditerranée, ce qu'on sait peu souvent. Il y aura aussi un certain nombre d'enseignes, évidemment, qui vont être intéressés, parce que descendre du bateau et avoir une rue commerçante avec des enseignes modernes à distance piétonne, à 200 mètres, 100 mètres, c'est une opportunité qui n'est pas si fréquente, voilà.
Là, vous avez le boulanger, alors, est-ce qu'il est là ? Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
J'ai l'émission de France Inter. Vous voulez dire un petit mot sur votre situation ?
Bonjour. Bonjour. Vous, votre commerce, il appartient à Marseille République ?
Tout à fait.
Et ça se passe comment avec Marseille République ?
Ça se passe tribunal, le 13 octobre, on passe au tribunal. Pour la fin de bail, ils m'ont envoyé un dossier de justice pour la fin de bail et de quitter le lieu dans les meilleurs délais. Je vous montre la lettre, elle est.
Donc là, je passe derrière les gâteaux, les tartes à la crème, les éclairs au chocolat. Alors, vous suez parce qu'il fait chaud ici.
Voilà, oui. Eh bien, il me demande de parquer d'ici, depuis mai 2006, de quitter les lieux pour récupérer les fonds de commerce et de le louer à 4 000 à 5 000 euros par mois. Ils veulent faire avoir deux marques, enfin, deux marques, de magasins de marques, au lieu d'avoir des boulangeries dans le secteur. D'après eux, ils ne veulent pas de boulangers ici. Et que nous, les Marseillais, par exemple, on est là, ils nous chassent de chez nous, si vous voulez. Ben, lorsqu'ils débarquent, les Américains, avec leur pétrodollar, ils achètent ce qu'ils veulent.
Juste, vous savez, voilà. Le montage de cette opération, c'est 25% la caisse d'épargne, voilà. Mais elle ne le dit pas, parce qu'elle a honte. 25% la Société Générale, elle ne le dit pas non plus, parce qu'elle a honte. Et 50%, dans ces 50%, vous avez les pompiers de Dallas, les veuves des pompiers de Dallas, c'est-à-dire les fonds de pension, la Caisse de dépôt du Québec, et 3% de Koweïti. Alors pendant un moment, on a dit, c'est les Koweïti, l'air de dire... C'est les Arabes qui jettent les Arabes dehors.
Voilà.
3%. C'est prendre vraiment les gens pour des imbéciles, sachant que la Caisse d'Épargne et la Société Générale font 50, 25 et se taisent.
Et pourtant, la Caisse d'Épargne, c'est une banque populaire.
Populaire, exactement.
Mais on a inventé la Caisse d'Épargne, c'est la banque des petits gens.
Exactement.
Des petits gens.
Vous avez raison.
Voilà.
Le petit local commercial de Marseille République, il est juste à côté, non ?
Ben juste, c'est mon voisin intime. Voilà. Et juste mur à mur à côté de...
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils veulent faire ici ?
Ah ça, ils ne disaient rien. Ah,
parce que moi, ils me l'ont dit.
Ouais. Vous, ils vous l'ont dit, mais moi, ils ne m'ont rien dit.
Ici, ça va être un grand espace luxe. Ouais. On va faire un grand espace luxe avec plein de belles enseignes. Si vous ne pensez pas que vous pourriez vous reconvertir un petit peu ? Ouvrir un magasin Kenzo ou un magasin Chanel ou quelque chose comme ça ? Dior, ce serait pas mal du parfum Dior à la place de faire boulanger.
C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée. Et à 52 ans, je vais voir M. Christian Dior, s'il accepte. Mais à part la boulangerie, je ne sais rien faire d'autre.
Et vous verriez bien porter un costume Chanel, une cravate et puis tout ça ?
Ça m'étonnerait. Ben, j'ai toujours un... T-shirt Storion à la marque de la farine bien marseillaise, enfin bien farine française, et un pantalon du boulanger et claquettes du boulanger. Hein? Je ne suis pas un type de marque, je suis un type qui sait faire le pain, de faire donner le pain aux gens, pas plus, et prendre le temps, le boulanger, de faire sa pâte, qu'on la déguste. Hein? C'est de caresser la pâte, un boulanger caresse sa pâte, qu'il donne son goût. Et par amour de mon métier, je ne lâcherai pas mon fonds de commerce, ni pour Marseille République, ni pour le bonheur de M. Gaudin.
Et tout ça pour continuer à faire le pain des Français.
Tout à fait. Qu'il est bien fait de cœur et d'amour.
Depuis l'éternité, les poètes ont chanté tous les plus jolis toits de Marseille. Mais quand vient le printemps, il en est un charmant où l'on peut passer des heures sans pareil. Sur les bancs du Prado, à l'ombre des grands platanes, on voit lorsqu'il fait beau le plus vivant des tableaux. Les hommes font la belote tout en prenant le frais. Et les mamans tricotent en berçant leurs pitchounets. Quand le temps est trop chaud, alors on tombe la veste et puis on fait la sieste sur les bancs du Prado.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Marc Montanella, Dominique Izir, Charles Warraud, Michel Quadra, Nils Solari et Monsieur Foyard de Marseille République. Hier, j'avais oublié de signaler dans le procès en réhabilitation de notre BHL deux participants de premier rang. Christophe Claire, avocat, et Claire Doublier, avocate. Voilà, à lire au sujet de Marseille, Psychogéographie d'Antoine D'Agata et Bruno Le Dantec aux éditions Le Point du Jour, et en septembre aux éditions Agone, édition marseillaise, L'histoire de Marseille de l'an 1000 à l'an 2000 d'Alessis Del Umbria. Et puis un site à aller voir, un centre-ville pour tous, www.centrevillepourtous.asso.fr. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Et bien sûr, vous devez, si vous aimez cette émission, vous informer sur son sort en allant sur le site www.la-bas.org, là-bas.org, pour lire la pétition qui est en ligne et éventuellement la signer. Vous ne ferez que rejoindre les 61 350 auditeurs qui ont déjà signé cette pétition en l'espace de 5 jours. Merci à tous, à la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. On continuera demain à se balader avec François Ruffin dans cette anomalie marseillaise. Pascal Pascariello, c'est l'assistante, et Christophe Imbert, c'est le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.